Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois l'animatrice et conférencière Marie-Claude Lépine et l'animateur Michel Bédard. Vous verrez, ces deux personnes n'ont pas la langue dans leur poche et surtout, ils sont passionnés par la vie. Alors, je vous promets de belles discussions. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ma première invitée qui est nulle autre que Marie-Claude Lépine. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Camille.
Marie-Claude, je suis tellement contente de te parler parce que, bon, tu es conférencière, formatrice, mais tu fais évidemment beaucoup plus de choses que ça dans ta vie. Alors, j'ai hâte de discuter avec toi et de découvrir ton univers. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu me parles de ton histoire et de ton handicap.
Oui, bon, ben moi j'ai 48 ans. J'ai été diagnostiquée, j'avais un an et demi avec une maladie une maladie neuromusculaire qui s'attaque à la moelle épinière. La moelle épinière se dégénère et l'influx nerveux qui part du cerveau se rend de moins en moins bien aux membres, le muscle s'atrophie et perd de la force. Mes deux parents sont porteurs du gène, mais ils ne sont pas atteints. Donc, moi, j'avais un an et demi lorsque j'ai été diagnostiquée. Comme c'est une maladie qui est évolutive, j'ai marché jusqu'à 5 ans. Mm-hmm. À 10 ans, j'étais dans un fauteuil électrique parce que là, j'étais plus capable de me déplacer par moi-même. Et bon, la maladie évolue comme ça, là, d'année en année. Quand j'ai été diagnostiquée, j'avais une petite sœur qui... Ah oui, c'est ça. Puis bon, quand les médecins nous avaient diagnostiqué, ma sœur et moi, à ce moment-là, ma sœur, elle avait 6 mois. Mm-hmm. Les médecins nous avaient dit que mon espérance de vie était juste de 15 ans et ma sœur de 12 ans. Parce que ma sœur était plus atteinte.
OK.
Donc là, mes parents nous ont toujours élevés comme si on avait un avenir.
Ça fait toute la différence.
Ça a joué une grosse différence. Ça a joué une grosse différence parce que je suis allée à l'école, j'avais plein de projets. Je suis allée à l'université aussi parce que là, j'ai eu quelques opérations qui m'ont permis de avoir moins de complications au niveau de la santé. Mm-hmm. Donc, ça m'a permis un peu d'avoir d'être moins atteinte, d'avoir moins de problèmes respiratoires. Et c'est ça, j'avais plein d'envie, fait que ça m'a permis d'aller aux études, d'aller à l'université. Par contre, ma sœur, comme elle était plus atteinte, elle est décédée, elle avait 12 ans. Moi, j'en avais 13 à ce moment-là. Donc, c'est sûr que moi, dans ma tête, et de ce que les médecins me disaient, je vivrais pas très vieille.
Ben non, c'est ça. Si on se fie à ce qu'eux vous ont dit,
oui, exactement.
Ça change le portrait et le futur.
Oui, mais j'avais comme... Oui, je le savais dans ma tête. Dans mes connaissances, c'est ce que je voyais parce que ma sœur est décédée. Mm-hmm. Par contre, à l'intérieur de moi, j'en avais pas de limite. À l'intérieur de moi, je savais que j'étais pour avoir une vie bien remplie.
Mais d'où ça venait, cette sensation, ou même, j'ai envie de dire, cette vision? Parce que j'aime bien, en fait, tu dis « à l'intérieur de moi ». Donc, il y a une différence entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et le monde extérieur, le regard des autres, ce que les médecins ont pu vous dire. C'est carrément deux mondes.
Oui, c'est deux mondes. Ces deux mondes, et souvent quand on est enfant, on essaie de cacher ce monde-là qui est à l'intérieur de nous. On essaie de nous forger à la société. à notre culture, à notre culture familiale ou culture aussi là, dans le pays où on est.
Oui.
Et ce qui un peu étouffe, ce qui nous habite intérieurement. Et c'est pour ça que des fois, ben, on peut avoir des problèmes de santé parce qu'il y a comme un combat qui se passe entre deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur, qui peut avoir des sortes de dépressions aussi.
Oui.
Mais lorsqu'on arrive à puiser ce qui est à l'intérieur de nous, ben, on sait ce qu'on a à faire. Et moi, ma vie, je la voyais longue et je la voyais bien remplie, contrairement à ce qu'on a essayé de me faire croire.
C'est incroyable de t'entendre, Marie-Claude. Ça nous en donne carrément des frissons. Parce qu'on parle de la base des choses et il faudrait dire même la base de la vie.
Mm-hmm. Oui.
Mais c'est pas tout le monde qui a cette vision-là.
C'est pas tout le monde. Pourquoi moi, j'y suis arrivée très, très jeune,
oui.
Je le sais pas.
OK.
Moi, c'est sûr que, jeune adolescente, j'ai toujours été croyante. Moi, j'écrivais régulièrement, non pas dans un journal, mais des lettres à Dieu. Moi, je m'adressais à Dieu directement. Fait que, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a eu un canal entre ce qui est plus grand que moi et moi?
Oui.
Peut-être, c'est ce que je pense.
Ça aide à connecter avec le moment présent parce que ça fait partie des notions dont tu parles beaucoup quand on est dans le moment présent. Tu parles de dépression, on peut parler d'anxiété. Souvent, on fait ça quand on se projette dans l'avenir,
mais quand
on est dans le présent, au final, qu'est-ce qui va si mal? Bon, c'est un peu des réflexions, hein, des pistes qu'on peut se donner pour essayer d'aller mieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Oui, bien, c'est ça. Je pense que le moment présent est très, très important. Le moment présent est rempli de vérité. Tu sais, ce qu'on sent avec notre odorat, ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend, ça, c'est la vérité, ça, c'est le vrai. Quand on se projette dans l'avenir, il peut avoir plein d'angoisse parce que ça fait peur.
Oui.
Et là, on n'a pas envie d'avancer. Et on s'imagine une sorte de scénario et qui ne se produiront probablement jamais.
Et non, c'est les fameuses peurs, hein, comme on dit, ça peut nous amener plus loin et agrandir justement ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais une autre notion aussi que j'aime beaucoup dont tu parles, c'est le fait, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais de te déprogrammer, c'est quelque chose que tu as appris par toi-même, encore une fois?
Probablement par moi-même, mais au fil des mais c'est sûr que ça s'est fait graduellement avec les parents que j'avais, tu sais, qui me disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis qui me disaient Marc-Claude, tu peux tout faire, fais-le à ta façon à toi. Quand j'étais j'avais 15 ans, j'allais dans une école qui n'était pas accessible pour moi, mes parents me disaient arrange-toi pour qu'elle soit accessible. Fais ce qu'il faut pour qu'elle soit accessible. Parce que moi, je ne voulais pas aller ailleurs. Donc, mes parents m'ont aidé, mon entourage m'a aidé, les lectures que j'ai faites aussi. Parce que pas longtemps après que ma soeur soit décédée, j'ai lu beaucoup sur la vie après la mort. La mort me fascinait. J'avais envie d'en savoir plus. Et j'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai lu beaucoup dans ma jeune adulte, avant que j'arrive à l'université, beaucoup sur la croissance personnelle. Donc ça m'a donné des bases. J'étais curieuse parce que je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin d'apprendre.
Mais c'est une très belle qualité, la curiosité.
Oui.
Qu'est-ce que tu aurais, je veux dire, c'est un sujet fascinant, la vie après la mort. Est-ce que tu aurais quelque chose qui... En fait, une croyance ou quelque chose à laquelle tu crois dur comme fer ou quelque chose qui nous ferait juste du bien à entendre par rapport à ce monde-là?
Je ne sais pas ce qui se passe au-delà de notre vie ici. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et que notre vie sur Terre n'est pas une finalité. Moi, j'ai la ferme conviction que je peux pas parler pour les autres, oui, mais pour la mienne, j'ai la ferme conviction que je viens explorer plein de trucs. Je viens explorer plein d'expériences pour, comment je pourrais dire ça, aller au bout. Moi, ma vie, je la vois comme j'ai envie de tout explorer pour aller au maximum de mes capacités, pour aller au maximum de ce que je suis, de ce que je peux accomplir. Et un coup, comme je pense en fait, quand j'ai fait du slam, de la poésie sur scène performée, ben, je me suis rendu, j'en ai fait durant 2 ans, 3 ans, et quand j'ai atteint la compétition provinciale, ben là, j'ai dit, OK, j'ai atteint le maximum que ce que je crois que moi, je peux atteindre.
Oui, qui est donc, franchement très, très beau. Oui, oui. Mais c'est magnifique. Est-ce que je peux oser te demander de nous faire une démonstration? Est-ce que je t'en demande trop de nous faire ça en ce moment?
Ben, j'en ai par cœur. Je vais vous faire celui que je fais le plus souvent.
On t'écoute.
Moi, j'ai fait j'ai retrouvé quelques-uns de mes ancêtres en faisant de la généalogie. Il y en a une, celle qui est venue de la France en 1670, quand elle est arrivée ici. J'ai retracé un petit peu son histoire et elle m'a habité. Et j'ai pas eu d'autre choix que de décrire un peu.
Wow,
je vais vous en faire un petit bout. Marie, tu n'avais que 14 ans. Orpheline de père et de mère, on t'embarqua en mer sur le Prince Maurice. De la Rochelle à Québec, de ta patrie à la Nouvelle-France. On te disait fille du roi. Venais-tu de la Salpêtrière? T'avais-t-on bousculé, malmené, frappé? T'avais-t-on expliqué ce qu'on attendait de toi? T'avais-t-on parlé des hivers rigoureux, du défrichage des terres, de la guerre avec les Iroquois? Savais-tu qu'à ton arrivée, tu devais te marier avec un soldat deux fois ton aîné? Que tu devais savoir coudre, broder, cuisiner, labourer, accoucher? Que tu devais élever tes enfants et seconder ton mari? T'avais juste 14 ans, Marie. Et voilà.
Marie-Claude, encore une fois, je ne peux que dire que j'ai plein de frissons en t'écoutant. C'est magnifique. Et j'ai envie, hein, sur ces belles paroles, de passer à la pause musicale pour, bon, on tombe dans un autre registre. Mais une autre chose qui va beaucoup nous parler de toi, on se retrouve tout de suite après.
Parfait, merci.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. There's a blaze of light in every word. did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah.
C'était la chanson « Alléluia » de Léonard Cohen. Et Marie-Claude Lépine, c'est toi qui as choisi cette chanson-là. Mm-hmm. Pourquoi?
Oui. C'est une chanson qui me fait vibrer. Parce que... Ben parce qu'elle me tire vers le haut. Oui, c'est une chanson qui ouais, je sais pas quoi dire de plus.
Oui, hein, c'est...
Elle me fait vibrer, elle me fait vibrer, elle me tire vers le haut.
Complètement. Je pense que bon, c'est pas que sur toi qu'elle a cet effet-là, cette magnifique chanson. Puis quand tu nous parles de nous tirer vers le haut, bon, tu nous as parlé de la religion, de croire en Dieu, on peut dire la spiritualité, on met tous les mots qu'on veut là-dessus.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres sources de motivation ou d'inspiration? Qu'est-ce qui... Tu vas les chercher où, toutes ces belles paroles et cette belle... Parce que tu dégages carrément, je veux dire, on est seulement à la radio et tu dégages quelque chose d'extrêmement fort.
Ouais. J'aimerais ça donner une recette, j'aimerais ça dire d'où ça me vient. Mais je crois que c'est parce que je me connais et je me connecte avec qui je suis. Je pense que c'est ça. Je pense que tout au long de ma vie, j'ai réussi à dépoussiérer un peu. Il y a tellement eu de croyances sur ma vie, très, très jeune, que j'ai appris à enlever toutes ces fossés, cette espérance de vie qu'on disait écourtée, que j'étais pour être malade, que j'étais pour pas travailler, que j'étais pas pour avoir de conjoint. Il a fallu que je dépoussière tout ça et aller puiser à l'intérieur de ce que je suis, qui je suis comme être. Et pour être bien. Et je crois que tout ça fait en sorte que je suis connectée à ce que je suis. Et c'est ce qui fait que je puisse rayonner comme ça. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est ma mission aussi.
Mm-hmm, voilà, c'est exactement ce que je me disais.
Ça. Oui.
Et de ça, pour ça, pour réussir à faire ça, en fait, là, tu parles un peu, beaucoup de notre propre identité.
Oui.
Tu parlais du regard des autres tout à l'heure. C'est important de laisser le regard des autres, ben justement, à l'extérieur.
Mais ça dépend.
Ah.
Le regard des autres à l'extérieur, les regards qui nous donnent, qui nous accrochent, qui nous graffinent. Mais les regards qui sont remplis d'amour et les gens qui nous voient comme qui on est vraiment, eux, il faut continuer à s'accrocher à ces regards-là. Moi, c'est ces regards-là sur lesquels je me suis accrochée quand j'étais jeune.
Et il venait de qui, ce regard-là, ou ces regards-là? C'était de qui?
De mes parents, beaucoup, de ma famille. Et de tous les gens dans mon entourage, les amis de mes parents, et ceux qui n'avaient pas ce regard-là, ben je les balayais du regard de ma main. J'étais encore en contact avec eux, là, sauf que je voulais pas qu'il y ait d'importance pour moi.
Et non. carrément.
Ouais.
Parce que oui, comme tu le dis, hein, le fait de chercher à nous élever vers le haut, c'est pas des regards de pitié, de dégoût, peu importe, qui vont nous amener vers le haut. Au contraire, en fait, je pense à tes passions parce qu'il y a carrément un univers autour de toi avec ton magnifique slam que tu nous as offert juste avant la pause. Mais c'est pas ta seule passion, Marie-Claude, dans la vie.
Oui, non. Moi, je suis passionnée par toutes sortes de choses. J'écris. Depuis un an, là, c'est les mandalas. Je joue avec la couleur. J'ai toujours été passionnée par le tricot aussi, beaucoup par l'art, par tout ce que je peux faire avec le tricot, avec les couleurs. J'agence les couleurs. Je suis passionnée de la nature. Moi, j'ai plein de plantes chez moi. J'aime être dans la nature. J'aime être en contact avec les arbres. J'aime l'eau.
Wow. C'est tout ce qui est en vie, tout ce qui vibre, tout ce qui est coloré.
C'est tout ce qui est en vie, exactement. Oui, oui.
Et je reviens un peu sur le sujet d'avant parce que je veux absolument qu'on aborde ce sujet. C'est un peu... un peu délicat, mais en même temps non, parce que ça dépend de la façon dont on le voit. Mais je sais qu'il y a une question qu'on n'a jamais vraiment osé te poser par souci de te respecter, mais parce que on parle quand même, tu vois où je veux en venir, hein, mais du corps, du handicap, de la maladie, mais de tous les murs qu'on peut, tous les préjugés qu'on peut transgresser et faire tomber. J'ai envie de te demander, toi, ton corps, bon, sachant que, comme si je reprends tes mots, hein, tu dis que ton corps est très déformé.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a une partie de ton corps avec laquelle tu te sens moins à l'aise?
Oui. En fait, très peu de gens le savent, ma famille, mon conjoint, mais j'ai des grandes oreilles. J'ai des grandes oreilles, un cou très, très long, très mince. Moi, je suis toute petite. Et, ben, je ne suis pas toujours à l'aise avec ça. Et des fois, ça m'empêche de m'attacher les cheveux, de me faire des couettes.
OK.
Quand je m'attache les cheveux, j'essaie toujours de mettre des petits cheveux là, qui vont couvrir mes oreilles.
mais tu sais, on parle d'un malaise, hein, d'une partie d'un corps avec lequel tu es moins à l'aise, mais tu nous le dis tout en douceur, en riant, parce que j'ai l'impression que tu le prends quand même avec amour, ces parties de ton corps-là.
Mais oui, parce que c'est partie de mon corps-là, parce que moi, je vois que mes oreilles sont plus grandes que ceux des autres. Par contre, on me dit que ceux qui ont des grandes oreilles, c'est parce qu'ils savent bien écouter.
Ah!
Bon. Ben, OK, c'est petit, je vois le côté positif.
C'est ça, exact.
j'ai une petite bouche. Peut-être que j'écoute deux fois plus que ce que je parle, je sais pas.
Non, tu sais quoi, moi, je pense que ça vaut absolument la peine que tu parles aussi parce que oui, t'as beaucoup de belles choses à nous dire et à nous partager. Puis je veux mentionner quand même, parce que tu es impliquée dans beaucoup de projets, on a quelques minutes à peine pour en parler, mais tu as cofondé Coop Assist. C'est quoi, oui, Coop Assist?
Coop Assist, c'est une coopérative et qui a développé un programme d'assistance personnelle et qui est maintenant travaille avec le gouvernement pour le mettre en œuvre. L'assistance personnelle, c'est pas connu ici au Québec, mais c'est un droit. Un droit d'être assisté pour que les personnes handicapées puissent être assistées comme elles veulent, où elles veulent et comment elles veulent. Parce que présentement, les services qu'on reçoit, ce ne sont que des services pour répondre à nos besoins primaires, qu'à la maison.
Okay.
Donc, notre vie citoyenne, notre vie en société est impossible. Donc, moi, si je veux aller aux toilettes, je peux le faire que chez moi. Je ne peux pas le faire sur mon lieu de travail. Je ne peux pas le faire dans une chambre d'hôtel à Québec. Donc, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas aller en vacances.
Mais pourtant, je sais que tu as déjà voyagé auparavant.
Oui, oui, parce que je suis bien entourée. Donc, j'ai des amis qui peuvent m'aider, mais ils le font gratuitement.
Oui, voilà, OK. C'est ça la nuance.
C'est ça. Moi, j'ai un bon réseau, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas le réseau que j'ai et qui ne peuvent pas voyager, entre autres, là.
Et donc, s'il y a des personnes qui nous entendent et qui sont très intéressées d'en apprendre plus, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'information?
On a un site Internet et un compte Facebook, une page Facebook, Coop Assist, assist.ca.
Voilà. Magnifique. Et tu es aussi formatrice pour Qui roule?
Pour Qui roule, oui. Mais oui. Donc, ce qu'on fait, c'est que je donne des formations aux entreprises touristiques qui veulent donner un meilleur service d'accueil pour les personnes qui ont différentes déficiences. Donc, moi, je leur dis que on est des touristes et des gens comme n'importe qui. Et par contre, il y a un service qui doit être un petit peu plus approprié pour nous.
Et oui.
Je leur explique comment faire.
Magnifique. Donc, encore une fois, ça, c'est surtout des compagnies qui peuvent faire appel à Qui roule et donc à toi en tant que formatrice.
Oui, pour ça, c'est plus à Qui roule. Okay. Je suis une des formatrices là, de Qui roule.
Et sachant que tu es conférencière aussi, mm-hmm. tu as fait des conférences TED, oui. Tu en as fait énormément. Encore une fois, comment on peut faire pour te rejoindre?
Marie-ClaudeLépine.com.
Magnifique.
Je donne des conférences pour inspirer les gens à créer leur vie au lieu de la subir. Je donne des conférences dans les écoles, les entreprises, les organisations. Partout où on aimerait entendre parler de la création de la vie.
Et justement, Marie-Claude, il nous reste une minute, mais je veux absolument entendre le plus de belles choses que tu as à nous dire en une phrase ou une minute. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour terminer à nous et à nos chers auditeurs?
On a tous des dons, des capacités, des talents que le monde a besoin d'entendre et de voir. Mmh. Et on doit les découvrir pour qu'on puisse les offrir.
Marie-Claude Lépine, merci infiniment. C'est un cadeau que tu nous fais aujourd'hui. J'ai le cœur rempli de t'avoir parlé et tu nous montres bien à quel point tout est possible. Merci beaucoup, belle femme.
Merci beaucoup, Camille.
Un plaisir.
Au revoir.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois mon deuxième invité, Michel Bédard.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Et oui, ici Camille Chai, je suis encore avec vous pour la prochaine demi-heure, mais je ne suis jamais seule. Je suis maintenant en compagnie de Michel Bédard, qui est animateur de l'émission de radio Les Capés à CKIA à Québec. Alors, chers collègues, bonjour.
Salut, ma chère.
Michel, je suis tellement contente de te parler. On a un beau programme, on a une belle table devant nous aujourd'hui. Hein.
Oui, reste à savoir si on va avoir assez de temps pour tout faire.
Et voilà, c'est ça l'enjeu. Écoute, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Sachant que tu habites à Québec, tu as 45 ans, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire et quel est ton handicap?
En fait, moi, je suis atteint de spina bifida. Ça, c'est une malformation de la colonne vertébrale. Il y a trois types différents et moi, je suis atteint d'un de ces types-là. Je n'entrerai pas dans tous les détails là, parce qu'à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Là. Mais cette malformation-là amène une paralysie des membres inférieurs, aussi de la vessie, intestin et tout. Donc, c'est ma réalité depuis 45 ans.
Et carrément, donc tu es né comme ça, tu es né à Trois-Rivières?
C'est bien ça, oui.
Comment s'est passé l'accouchement, puis le fait qu'ils ont découvert en fait que tu avais le spina bifida?
En fait, il faut se rappeler qu'il y a 45 ans, tout ce qui est examen de d'échographie, amniocin, tous ces bébelles-là étaient beaucoup moins avancés qu'aujourd'hui. Mm. Donc, ils voyaient beaucoup moins de trucs à l'époque versus aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ont découvert ça à l'accouchement. Le médecin qui a accouché ma mère a dit si on ne le transfère pas à Montréal, il ne survivra que quelques jours. Évidemment, les parents dans ce qu'ils sont, tout de suite, on transfère, on s'en va à Montréal. Tout ça, j'ai eu des opérations très jeunes. Il faut dire aussi que je suis atteint d'hydrocéphalie. Ça, c'est un surplus d'eau dans la boîte crânienne entre le cerveau et le crâne. Donc, ils ont installé un drain pour filtrer tout ça, pour amoindrir la pression. Pour ceux des fois qui regarderaient sur Internet, si vous voyez des têtes d'eau,
oui.
Ben, c'est ça. Okay. C'est des gens qui ont de l'hydrocéphalie, mais non très peu. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là à ma naissance. Mais ça a été quand même, les premières années de la vie ont été quand même pas faciles, je dirais, dans la mesure où il y a eu des hospitalisations, tout ça. Somme toute, je m'en suis bien tiré dans les premières années de ma vie.
Oui, puis je suis heureuse de l'entendre, mais en même temps, comme tu le dis, tu as dû consulter énormément de spécialistes, aller dans les cliniques, donc c'était une enfance aussi où tes parents y ont consacré énormément de temps sur la route et dans les hôpitaux.
Oui, mais comme je disais, on demeurait à Trois-Rivières à ce moment-là,
mm-hmm.
puis deux fois par année, je devais me rendre à Montréal pour une clinique de spina bifida qu'on appelait à l'époque. Et puis, à cet endroit-là, j'avais la chance de rencontrer tous les spécialistes qui gravitaient autour de moi. Puis d'autres mondes, évidemment, je n'étais pas le seul, pour nous aider à avoir une meilleure vie. Que ce soit urologue, physiothérapeute, neurologue, neurochirurgien, toute la panoplie de spécialistes était là pour une demi-journée. Mais bon, nous, comme on est à l'extérieur, ben, c'est carrément une journée.
Oui, oui, oui.
Le temps de se déplacer, parce que les gens qui demeuraient à Montréal, ils arrivaient là, ils partaient quelques minutes avant, puis ils revenaient quelques minutes après.
Mm-hmm.
Mais nous, c'était 2h30 de voyage le matin, 2h30 au retour. Fait que ça a été quand même du déplacement. Mais non, c'est... Et je dirais même que je vais peut-être un peu rapidement, puis je saute peut-être des étapes, mais quand on arrive à l'âge adulte, ces cliniques-là arrêtent. Il vient comme une espèce de trou de service où les centres de réadaptation, les hôpitaux, tout ça disent, ben, c'est la personne est majeure, donc elle est en mesure de s'organiser avec les rendez-vous de urologue, de neurologue, bon, toute cette panoplie-là. Donc, il n'y a plus de clinique. Ce qui fait qu'il faut, comme je te dis, s'organiser tout seul.
Oui, mais c'est malheureux, ça.
Ben oui, c'est ce qui manque. Puis les centres de réadaptation aussi, des fois, en tout cas, c'est par période, je te dirais, des fois, ils savent qu'il n'y en a pas, mais... Et ils trouvent ça triste, mais ils n'en remettent pas sur pied.
Oui, donc on n'est pas plus avancé.
Non, c'est ça. C'est quelque chose qui manque encore aujourd'hui.
OK. Comment
mais,
tu...
mais je dirais, surtout quand on a 18, 19, 20 ans, où les personnes handicapées, surtout de naissance, sont ultra couvées par leurs parents.
Mm-hmm.
Et là, on arrive du jour au lendemain à 18, 19, 20 ans, où ben, les parents délaissent un peu... Je dirais pas délaissent leur rôle, mais...
Ben, c'est plutôt c'est toi qui prends ton envol à cet âge-là, quoi.
Ben, c'est ça. Mais là, prendre ton envol quand tu sais pas où aller, tu sais pas où appeler, tu sais pas à qui parler.
Mais non.
T'as aucune expérience parce que ça fait 18, 20, 22 ans que c'est tes parents qui font ce job-là.
Eh oui, c'est vrai, hein?
Donc, comment veux-tu arriver puis être capable d'être, en guillemets, autonome dans ces choses-là, puis de pas se perdre dans toutes les dédales de patentes puis de centrales de rendez-vous, puis je sais pas si c'est moi qui se trompe, mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, à l'époque, il y avait pas la grosse structure au niveau du ministère de la Santé. Fait que, de mémoire, il me semble que c'était plus simple de rejoindre des médecins,
oui,
puis d'avoir accès à quelque chose de rapide et personnalisé.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, tu vois les médecins, les spécialistes, puis ils sont pas nécessairement...
plus accessible ou ils ont...
Ouais, c'était comme plus un numéro qu'un cas.
Mm-hmm.
Moi, je me rappelle, quand j'ai eu 12 ans, je me suis fait opérer dans le dos pour que j'ai une scoliose. Et un dimanche après-midi à 4 heures, mon médecin vient me voir, il a le côte de ski, il a le manteau de ski sur le dos, il arrive du Mont-Saint-Anne pour faire. Il est allé faire son après-midi de ski. Il est passé à l'hôpital, il est venu voir 2-3 patients, puis il est reparti.
Mais c'est. Oui!
Ça fait donc 30 et quelques années de ça. Je pense pas qu'on voit ça aujourd'hui.
Mais non, mais c'est extra, c'est génial d'entendre ça.
Mais c'est ça. Mais fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir un service personnalisé versus il y a 25, 30, 35 ans. Là.
Ben oui, ben donc c'est clair qu'il y a encore une fois beaucoup à faire à ce niveau-là. Mais je me demande, justement, tu parles de quand tu étais bon adolescent ou un jeune adulte. Comment ça s'est passé pour toi, autant au secondaire qu'au cégep? T'étais quel genre de garçon à cette époque?
En fait, j'étais deux garçons différents.
Okay.
Je m'explique. Début du secondaire a été très difficile. Ça a été du bashing, de l'intimidation.
Mm.
Secondaire 1, jusqu'à, je te dirais, milieu de secondaire 2. Après ça, j'ai commis mon pied à terre, si je peux dire, puis j'ai fait comme non, de toute façon, on arrête ça là. Et de mémoire, c'est du jour au lendemain, mais c'était peut-être pas ça. Ça a viré complètement de côté.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça change?
L'expression va peut-être te faire sourire, mais j'ai mis mon pied à terre.
Oui, et là, on le mentionne quand même, tu es en fauteuil roulant.
Exactement.
donc, ça parle.
Ouais, donc, j'ai dit non, c'est assez. Et j'ai commencé à trouver des stratégies pour me faire respecter. Et je suis comme tombé dans la bonne gang. Ah. Je veux dire, dans la gang des gens qui sont respectés, connus. Donc, ça a été quand même un changement important. Par contre, le côté négatif de ça, puis bon, ce que je te raconte depuis tantôt, ça sonne un peu négatif, mais en réalité, ça ne l'est pas. Donc, le côté négatif, c'est que je me suis fait comme une carapace.
Mm.
OK? Et ça, c'est dangereux. Parce que quand vient le début de l'âge adulte, la carapace est encore là, mais tu n'en as plus nécessairement besoin parce qu'avec les années, tu as acquis d'autres outils.
Oui.
Parce que la carapace, c'est un outil très, 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 très pratique, je dirais,
mm-hmm.
pour se couper de tout, puis de ne plus être atteint par les méchancetés que les gens peuvent dire, faire. Mais vient un moment, comme je te dis, 18, 19, 20 ans dans ces eaux-là, la carapace n'est plus utile. Parce que tranquillement, pas vite, tu t'entoures des gens corrects avec toi. Fait que tu n'as plus besoin d'être méfiant rendu à ce moment-là. Fait que de se défaire de cette carapace-là, quand ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que tu as ça,
oui, mais oui.
C'est pas facile. Ça demande un travail. Puis bon, moi, je me rappelle d'avoir été suivi en psychologie à 20 ans pour ça, pour me rapprocher de mes émotions, si je peux dire.
Mm-hmm.
Puis dire, là, regarde, sois capable d'y vivre, puis essaye de ne plus être atteint. Bon, je recule un peu, mais À 15 ans, j'ai perdu mon meilleur chum de gars sans pouvoir lui parler parce qu'il est mort un peu subitement. Puis j'étais en plein milieu d'une semaine de punition. J'avais pas le droit au téléphone, pas le droit de parler à personne. Bon, je me rappelle plus la cause, mais bon. Fait que ça a été des choses qui ont pas été nécessairement faciles à vivre. Mais étant un peu coupé des émotions, ben...
Tu passes à côté de quelque chose quand même.
Ouais. C'est ça, on passe à côté de quelque chose. Puis, bon, vois-tu, actuellement, j'ai 45 ans. Puis, des fois, j'ai encore tendance à le faire. Le mécanisme de carapace n'est jamais bien loin. Sur une base régulière, il n'est plus là, ça c'est clair. Mais des fois, je le sens pas loin. Là. Le je m'en foutisme, entre parenthèses, que la carapace apporte, c'est encore pas très loin des fois.
Mais tu sais, Michel, je pense que tout le monde, hein, plus ou moins, on a certainement développé cette carapace-là à un moment ou un autre de notre vie. On est tous des humains, on a tous des émotions, comme tu dis, des peurs. Donc, oui, il y a des moments où on veut s'en couper. Est-ce que tu te souviens, toi, de quoi tu avais peur à ce moment-là?
Bonne question. De quoi j'avais peur à ce moment-là? J'avais peur que les gens me fassent la peine et me rabaissent. Parce que même encore aujourd'hui, j'arrive difficilement à me voir à ma juste valeur.
Mm.
Plein de gens me disent « Hey, t'es capable de faire ça. T'es apprécié pour ça. » Plein d'exemples. Puis, j'ai de la misère à le croire encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose. Puis, c'est un travail de tous les jours. Parce que, actuellement, moi, je fais des choses tout bonnement parce que c'est des choses qui sont logiques d'être faites, tout ça. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps de l'aborder, mais je suis beaucoup impliqué dans la défense des droits des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Puis, bon, tu l'as dit en début d'entretien, j'ai une émission de radio sur les personnes handicapées. Puis, pour moi, c'est comme juste naturel. Je fais pas d'effort. Puis je le fais tout simplement parce que ça doit être fait. Donc, d'avoir la reconnaissance des gens, c'est pas toujours facile à prendre et à croire, surtout. De l'entendre, ça va. Mais de le croire
oui. Dans
le plus profond,
oui.
C'est pas facile.
C'est autre chose.
C'est un apprentissage, je dirais, quasi quotidien.
Mais tu sais, ce que tu nous racontes, pour moi, c'est une belle preuve d'humilité et, comme tu le dis, c'est un travail sur du long terme. Et voilà, je trouve ça beau que tu nous en parles parce que je suis sûre que, bon, plusieurs qui nous écoutent peuvent se reconnaître à l'intérieur d'eux. Donc, à quel point, c'est important. On voit très clairement que tu es un homme qui est très réfléchi, qui a pris le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Et je sais pas si ça t'arrive souvent de réfléchir quand tu écoutes de la musique, mais c'est ce que je te propose qu'on fasse. On va passer à la pause musicale, puis on se retrouve tout de suite après.
Parfait.
Tried real hard. Jimmy quit. Jody got married. Shouldn't
C'était la chanson Summer of 69 de Bryan Adams. Michel, c'est ton choix musical? Ça te donne du peps?
Oui, ben, oui. Puis en même temps, je trouve que c'est une tonne qui nous fait se défouler. Moi, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a comme tout le monde, oui, j'ai des moments, inquiétez-vous pas, j'ai des beaux moments aussi, j'ai pas que du négatif. Mais dans les moments plus dans ma tête, plus réfléchi, plus. Puis où que où j'ai du découragement. Bon, parce que l'hiver, en général, n'est pas toujours facile.
Non.
À un moment donné, on vient tanner, tout ça, de peut-être entre ces quatre murs. Et ça, cette chanson-là me donne un pep et me booste, si je peux dire ça. Ça me défoule, ça booste, ça donne de l'énergie pour continuer. Donc, c'est une tonne que j'écoute depuis qu'elle est sortie au début, milieu des années 80.
Ben écoute, on en prend note. Et je trouve ça intéressant parce que quand tu parles de bon, être en hiver, c'est souvent la réponse d'ailleurs de toutes les personnes quand je demande quelles sont tes plus grandes difficultés en lien avec ton handicap. L'hiver revient assurément. Mais toi, tu y amènes une nuance quand même. Il y a la notion de oui, OK, en hiver, on est un peu plus confiné qu'à la normale, mais le fait d'être en fauteuil roulant aussi, c'est une forme de confinement en soi.
Oui, tout à fait. Il y a des endroits qu'on n'est pas capable d'aller, qu'on ne sera jamais capable d'aller, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, diront certains. Mais reste que l'inaccessibilité de certains endroits est une réalité, est un fait. On en a jasé quand on préparait la discussion entre toi et moi. Le confinement actuel qu'on vit à cause de la COVID-19, est extrêmement difficile pour plusieurs personnes.
Mm-hmm.
Parce que faut savoir que le commun des mortels qui vit ses journées régulières et tout, va au travail, revient, le fameux métro boulot dodo, si je peux dire.
Oui.
Et que lui et cette personne-là a commencé à vivre un confinement le 15 mars, ben nous, en fauteuil roulant, et d'autres personnes, d'autres types d'handicap peut-être aussi, mais nous, c'est pas depuis le 12 mars, c'est depuis le 1er novembre 2019. C'est pas depuis le 12 mars 2020.
Et pourquoi?
C'est sûr que depuis ces dates-là, puis même actuellement, on est d'autant plus confinés comme tout le monde.
Et
donc,
oui.
L'hiver dernier, on l'était. Mm. Tu sais, je veux dire, ton voisin a pu aller travailler, t'as pu aller travailler et tout, sans problème. Moi, j'avais de la difficulté à aller au coin de la rue pour me chercher une pinte de lait.
Voilà.
Tu sais, puis ça fait quoi, plus ou moins 18 mois? Et il faut savoir aussi que on n'est pas tous et toutes vaccinés pour l'instant. Donc, on en a encore combien de mois? Tu sais, on vient d'entendre justement la chanson de Bryan Adams. Ben, cette chanson-là, personnellement, m'aide beaucoup à passer au travail d'une période comme on vit actuellement.
Mm-hmm. Puis il y a aussi, c'est beau parce que ça prouve à quel point, ben, non seulement la musique est un très bon outil pour se faire du bien, pour nous remonter le moral, mais il y a aussi une image que toi, tu vas nous offrir pour nous aider aussi à nous donner à nous accrocher, en fait, à une belle image qui parle beaucoup et qui est très forte. En fait, parce que toi, t'as un tatouage qui est très significatif pour toi.
Oui, en fait, j'ai un tatouage que j'ai fait faire il y a quelques années. C'est un caméléon. Vous allez me dire, pourquoi un caméléon? C'est assez simple. Un caméléon, on ne le voit jamais.
Mm.
Il s'efface. Il trouve un moyen de s'adapter à sa réalité de vie, à son environnement de vie. Les personnes handicapées, pas seulement qu'en fauteuil roulant, mais en général, on doit s'adapter 365 jours par année, 24 heures par jour.
Oh que oui.
Tu sais, toi, bon, t'as un handicap quelconque, tu dois adapter ta façon de faire, ta façon de vivre, moi, même chose. Une personne qui est aveugle, même chose. C'est, on doit toujours, toujours travailler à adapter notre vie, mm-hmm. nos situations de vie à notre situation physique, je dirais.
Et ça, dans le but d'avoir évidemment une qualité de vie. On fait tout ça pour ça. Hein?
Ben exactement. Tu sais, l'expression de personne vivant avec un handicap, oui. ben, prend tout son sens. Tu sais. Puis il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est la société qui t'handicape. Mm. Ben, c'est vrai, ça. Je veux dire, moi, dans la maison chez nous, j'ai pas de problème. Tout est fait pour moi, tout est correct pour moi. Mais dès que je sors, ben, là, ça peut venir de l'angoisse pour certaines personnes.
Totalement.
C'est pas toujours facile la vie. Mais, comme je disais, il faut quand même réussir à s'adapter. Mm-hmm. C'est du tout le temps. Tu sais, je te parlais il y a 2 secondes du fait qu'on est confiné depuis le mois de novembre 2019. Ben, il faut s'adapter à ça pour se trouver des gens qui vont être capables de peut-être aller faire nos courses, mm-hmm. Notre épicerie, tout ça. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours avoir des solutions pour tout parce que c'est il n'y a pas grand-chose de simple dans nos vies.
Non.
Je te l'ai dit tantôt.
Oui.
Je ne peux pas apporter que du négatif. C'est pas vrai. Il n'y a pas que du négatif. Mais loin de là. Mais reste que le tatouage du caméléon est quelque chose d'important pour moi, même si je n'y pense pas toujours. Mm-hmm. Mais au moins, quelqu'un qui voit ça, ben va peut-être réussir à comprendre des choses.
Oui, c'est une image qui est très forte. Puis je viens vers ton travail. J'imagine que c'est, ben, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est une façon pour toi, c'est une tribune de justement, quand tu parles de la défense des droits des personnes handicapées, mais c'est ton moyen à toi de transmettre toute cette, comment dire, ben, j'ai envie de dire, oui, cette passion et cette envie de faire bouger les choses et de nommer les choses, parce que j'entends bien que c'est important pour toi de ne pas dire les choses d'une façon où tu vas te plaindre ou d'être une victime. Au contraire, c'est tout l'inverse.
Tout à fait. Moi, l'émission Les Cafés que j'anime depuis maintenant 5 ans et des poussières, moi, quand j'ai commencé ce projet-là, dans ma tête, j'en avais pour 6 mois. Qu'à un moment donné, les sujets allaient tellement revenir qu'à un moment donné, ça allait être plate.
Ça, c'est ce que tu pensais.
C'est ce que je pensais oui. Au mois de juillet 2016, quand ça a commencé. C'est plus ça du tout. Puis je vois l'utilité de l'émission encore aujourd'hui. Parce que, comme je te dis, moi, dans ma tête, cette émission-là aurait duré 6 mois.
Comme quoi, Michel, il y en a des choses à dire hein, sur le monde du handicap, de la différence, de l'inclusion, de l'accessibilité.
Il y a tellement, là, tellement. Il y a des. Bon, c'est sûr que en ce début d'année, c'est un petit peu plus complexe parce que, on est en temps de pandémie, tout le monde le sait. Et puis, les sujets sont un petit peu plus difficiles à trouver. Mais il y en a quand même, il faut juste gratter un peu plus.
Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Michel, il nous reste à peine 1 minute. Je veux absolument que... je voudrais savoir si tu as un message ou une chose que tu veux absolument nous dire avant la fin de l'entrevue pour peut-être donner un petit coup de boost justement aux personnes qui nous écoutent et qui en auraient besoin.
Ben, moi, j'encouragerais les gens à pas s'apitoyer sur leur sort, à se dire que les situations peuvent changer, peuvent s'améliorer. Mais il faut faire des efforts pour pas avoir peur de passer des commentaires, que ce soit à vos villes différentes, à vos commerces autour de chez vous. Il faut vraiment pas avoir peur parce que c'est en faisant ça, en faisant de la sensibilisation, que ce soit, comme je dis, les villes, les commerces et tout, qu'on va arriver à quelque chose.
Magnifique.
C'est vraiment de cette façon-là, à faire bouger les choses. Ayez pas peur, affirmez-vous. C'est là que ça va changer.
Tout va changer. Mais Michel Bédard, merci infiniment et j'invite les auditeurs à t'écouter à ton émission Les Capés à CKIA à Québec. Merci, Michel.
Mais soit dit en passant, si je peux me permettre,
oui.
Tu parles de CKIA, mais on est aussi disponible par Internet pour les gens qui sont à l'extérieur de Québec et sur la page Facebook de l'émission au CKIA FM, facebook.com/ Les Capés CKIA. Donc, cette émission-là est diffusée par Internet, en Facebook Live, à toutes les semaines.
Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Merci à mon équipe, Claire Guérin et Mathieu Tessier. À la semaine prochaine.